Vous êtes sur RTL.
Merci.
RTL Midi.
Le 12h.
Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est donc avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Première neige en pleine, l'hiver arrive sur la France et avec lui le spectre des coupures de courant. On s'interrogera d'ailleurs dans ce RTL Midi sur l'origine exacte de cette crise énergétique et électrique. La guerre en Ukraine est-elle vraiment la seule responsable? Pas si simple. En attendant, le froid et le verglas sont probablement à l'origine de ce carambolage qui a fait un mort et trois blessés en urgence absolue. Ce matin sur l'autoroute près de Saint-Etienne. On y revient dès le début de ce journal. Dans ce RTL Midi aussi, le procès des attentats de Bruxelles qui s'ouvre en Belgique. Le procès en appel de Nicolas Sarkozy également cet après-midi. Des médecins privés d'ordinateurs à l'hôpital de Versailles, victimes à son tour d'une cyberattaque. Et puis ce quart de finale qui fait déjà rêver, c'est du foot et c'est le mondial. La France retrouvera l'Angleterre samedi pour une place en demi.
RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL Midi, un jour chez vous en France.
Et aujourd'hui, on part sur les quais de Seine à Paris où l'on cherche à recruter des bouquinistes. RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Aujourd'hui, vieillir chez soi, c'est le projet de la majorité des Français. Mais comment faire et combien ça coûte? On y revient à midi 20. Enfin, 5 ans, 5 ans que le taulier s'en est allé. Juste avant 13h, on rendra évidemment hommage à Johnny dans LVT Midi.
La question du jour,
d'abord sur notre site rtl.fr à propos de la consommation d'énergie. Faites-vous encore plus attention à la température dans votre logement?
Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans Les Auditeurs ont la parole.
Avant ça, la météo avec vous. Bonjour Peggy Broche.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
D'un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi Peggy?
Froid et gris au nord avec quelques flocons sur le Grand Est et beau au sud.
Merci Peggy, la météo complète à la fin du journal.
RTL Midi.
Et avec donc les premières neiges en pleine, ça y est, l'hiver est bien là. Et avec lui, ses dangers sur la route, notamment carambolage ce matin sur l'A72 près de Saint-Etienne. Accident qui pourrait être dû au verglas, Frédéric Perruche, et dont le bilan est lourd. Un mort et trois blessés en urgence absolue.
Ah oui, le verglas sans aucun doute et un peu de brouillard sont à l'origine de ce gigantesque carambolage sur la 72. Peu après 6h du matin, 24 véhicules sont impliqués, dont 6 poids lourds. Le bilan est lourd, vous l'avez dit, un mort et 3 blessés très graves et une vingtaine d'automobilistes encore sous le choc, comme Alain.
Quand j'ai commencé à freiner, j'ai senti que la route était bien gelée en fait. 50 mètres plus loin, une mare de warning, donc j'ai freiné, j'ai réussi à m'arrêter sans toucher personne. Je suis sorti de mon véhicule, j'ai couru derrière la glissière et là j'ai vu des voitures s'empaler devant moi, sous des camions et compagnie. Moi j'ai vu deux voitures qui rentraient dans un camion.
Et l'explication selon vous, c'est le verglas?
Ouais, le verglas, on tenait pas debout, hein, donc le verglas c'est sûr, la route était gelée. Hein.
Une centaine de pompiers et de gendarmes sont toujours mobilisés sur place. L'autoroute A72 devrait encore être coupée une bonne partie de l'après-midi. Des déviations ont été mises en place.
Frédéric Perruche pour RTL.
À son tour, la Belgique plonge dans le plus grand procès de son histoire.
Celui des attentats de Bruxelles. C'était le 22 mars 2016. Des terroristes se faisaient exploser à l'aéroport de Zaventem et dans le métro. 32 morts, des centaines de blessés et 9 accusés dans le box depuis ce matin. Bonjour Cindy Hubert.
Bonjour.
Vous assistez à ce procès pour RTL sur un ancien site de l'OTAN, ultra sécurisé donc, site dans lequel les accusés font face depuis ce matin à des jurés tirés au sort.
Oui, ces jurés sont serrés sur 3 rangs, l'air un peu perdu. Certains jettent des regards apeurés vers le box juste en face d'eux à quelques mètres. D'autres n'osent même pas lever les yeux. Ces hommes et ces femmes vont devoir venir ici chaque jour dans ce bloc de béton entouré de barbelés. Chaque jour pendant 10 mois, la présidente leur lance un sourire d'encouragement. Je sais que cela bouleverse votre vie familiale et professionnelle. Alors, merci d'être ici. Juste devant la magistrate, on aperçoit les scellés du dossier, les perruques des terroristes, un morceau du wagon de métro pulvérisé et des sacs de boulons aussi utilisés pour fabriquer des gilets explosifs.
Et la grande question, Cindy, c'est est-ce que Salah Abdeslam va parler ?
Absolument, on peut tout imaginer avec un homme déjà condamné à de la prison à vie. Salah Abdeslam n'a rien à gagner ici, rien à perdre non plus. En tout cas, ce matin, il s'est présenté comme électromécanicien dans ton poli. Quant à Paris, il y a un an, il se revendiquait combattant de l'État islamique. Mais il y a eu beaucoup de soupirs de déception parmi les victimes très nombreuses ici dans la salle. Quand Osama Krayem a lui refusé de dire un mot et même de se lever, lui qui devait se faire exploser dans le métro avant de faire demi-tour à la dernière seconde.
Cindy Hubert pour RTL.
En France, Nicolas Sarkozy de retour face aux juges aujourd'hui.
L'ancien président de la République jugé en appel pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes, affaire que l'on a aussi appelée affaire Paul Bismuth. Nicolas Sarkozy avait été condamné en première instance à 3 ans de prison, dont un ferme. On y revient dans le journal de midi et demi. Et puis l'activité de l'hôpital de Versailles, très affectée par une cyberattaque depuis samedi soir. Sauf urgence vitale, les patients sont donc redirigés vers d'autres établissements. Le plan blanc a été déclenché.
RTL, Coupe du Monde 2022.
En rugby, on appelle ça le crunch. Et cette fois, on parle football. Mais le France-Angleterre, qui s'annonce samedi, sera bien un moment crucial.
Car les hommes de Didier Deschamps et les sujets de Sa Majesté se disputeront à 20h, donc samedi soir, une place dans le dernier carré. Les Anglais, vainqueurs du Sénégal 3-0, sérieux adversaire face à des Bleus qui ont certes marqué 3 fois, eux aussi contre la Pologne, mais qui ont montré également une certaine fébrilité défensive avant d'encaisser un but sur pénalty. Alors, qui est vraiment favori? On vous dit tout dans quelques minutes, mais avant ce quart de finale, il y a encore des huitièmes aujourd'hui. À 16h, le Japon affronte la Croatie. Et ce soir, le Brésil sera face à la Corée du Sud. Le Brésil qui va retrouver Neymar, Hugo Hamelin.
Oui, blessé dès le premier match, Neymar s'est astreint à une rééducation express pour soigner sa cheville. Piscine, entraînement spécifique, bottes de compression. Le terrain, avec l'impact, avec les contacts de ses coéquipiers de la Seleção, il ne l'a finalement retrouvé qu'hier après-midi. Et d'ailleurs, son coach, Tite, a pris vraiment des pincettes en conférence de presse pour annoncer son retour.
La titularisation de Neymar présuppose la validation du staff médical. Que ce soit bien clair, je sais que vous êtes tous impatients. Il s'est entraîné et s'il se sent bien, il jouera.
Alors, à moins d'une totale résurrection, le numéro 10 du Paris Saint-Germain ne devrait pas disputer le match en entier ce soir. Mais il veut absolument participer à l'aventure de ce mondial, quitte à jouer avec une petite gêne. Lui qui déjà n'avait pas été épargné par les blessures lors des 2 dernières Coupes du Monde.
Hugo Hamelin, l'un des envoyés spéciaux de RTL au Qatar. Et ce sera évidemment à vivre tout ça dans le rendez-vous quotidien que vous connaissez désormais sur RTL à partir de 20h autour de Julien Courbet et de tout le service des sports. La météo, on vous retrouve Peggy Broche, il fait froid.
Ah oui, ça c'est clair, on est bien sous les normales de saison, je vous le confirme. Alors surtout au nord, parce que dans la moitié sud, on est véritablement sur les normales. Au nord, cet après-midi, pas plus de 3 degrés à Rouen ou à Reims. Il fera 4 à Paris. On a 5 à Nancy, 6 au Havre, 7 à Brest, 8 à Aurillac, 9 à Montélimar, 10 à Bordeaux, 11 à Montauban, 12 à Marseille, 13 à Biarritz, jusqu'à 15 degrés à Toulon et on a même du 18 degrés à Bastia en Corse. Alors côté ciel maintenant, en fait on a un ciel bien gris sur toute la moitié nord avec encore quelques faibles pluies, quelques bruines et quelques flocons aussi sur les premières hauteurs des Ardennes, de la neige également des 600 mètres sur les Vosges. Sur le reste de la moitié nord, c'est un temps sec mais ça va rester couvert sauf en Bretagne. On va retrouver des éclaircies, peut-être aller quelques gouttes sur la pointe du Cotentin et le Pas-de-Calais, puis sur toute la moitié sud, eh bien là on retrouve un temps ensoleillé, sec. Quelques grisailles persistantes vers le Lyonnais, vers le golfe du Lion, mais pas grand chose. Ça ira mieux en Corse, les averses seront moins nombreuses et les nuages moins nombreux également. Mais tout ça sous des températures, je vous le disais, sous les normales sur la moitié nord, donc on se couvre bien.
Merci beaucoup Peggy.
RTL Midi, un jour chez vous.
Un jour chez vous, chaque jour, l'info plus près de vous. Où partons-nous aujourd'hui ?
À Paris, pas très loin d'ici, Pascal, sur les quais de Seine, puisque la mairie de la capitale recherche de nouveaux bouquinistes. Bonjour Célestin Bougère.
Bonjour.
17 emplacements à pourvoir. On parle, vous savez, de ces mythiques boîtes verre-bouteille pour passionnés de littérature. Alors les candidats, Célestin, ont jusqu'au 30 janvier pour envoyer leur dossier.
Oui, et certains n'ont pas perdu de temps. Laurent Bussière a déjà déposé son dossier. C'est un Parisien amoureux des livres qui a enchaîné les métiers dans la culture. À 46 ans, il souhaite maintenant quitter sa routine pour tenter une nouvelle aventure sur les quais de Seine.
L'idée de travailler dehors, pas assis sur un bureau, ce que j'ai fait pas mal de temps, me plaît. J'ai toujours connu les bouquinistes et me dire que maintenant je retourne, pas à la mer, mais à la Seine et à ces boîtes, c'est agréable, oui, pour un Parisien et quelqu'un qui aime les livres.
Laurent Bussière est en tout cas motivé. C'est un rêve de pratiquer ce métier mythique, vieux de 4 siècles.
Est-ce que le métier de bouquiniste attire encore, notamment parce qu'il y a le numérique et qu'on peut trouver aujourd'hui un livre par Internet directement, sans fouiller, comme jadis?
Eh ben non, pas vraiment. 80% des bouquinistes aujourd'hui ont plus de 50 ans. Rachid, lui, en a 36. Ça fait environ 9 mois qu'il est installé sur les quais de Seine. L'emplacement est mis à disposition gratuitement par la mairie de Paris. Mais quand on écoute l'ancien pêcheur, on comprend vite pourquoi ce métier a aujourd'hui du mal à attirer.
Quand on ouvre le matin ici, on ne sait pas. On ne sait pas combien on gagne. On ne sait pas si on fera une journée intéressante. C'est un peu comme la pêche, si vous voulez. Donc il y a une part de hasard comme ça qu'on vit tous les jours.
Et pour une profession en difficulté déjà avant la crise du Covid, on imagine, Célestin, que les confinements successifs ont fait mal au portefeuille.
Oui, beaucoup de clients ont adopté, comme vous le disiez Pascal, le commerce en ligne. Résultat, certains professionnels se sont mis à la vente de souvenirs à destination des touristes. Une situation que regrette Jérôme Calais, le président de l'Association culturelle des bouquinistes de Paris.
Effectivement, le souvenir, c'est infiniment plus rémunérateur que le livre et beaucoup moins de travail. Ça a été un dévoiement qui a duré un peu et aujourd'hui c'est un peu fini. Le livre a repris ses lettres de noblesse sur les quais. On n'imagine pas Venise sans ses gondoliers, on n'imagine pas Paris sans ses bouquinistes.
Et pour écarter tout risque d'une disparition de cette tradition, Jérôme Calais souhaite l'inscrire à l'UNESCO après la baguette il y a une semaine. Et ben on aura peut-être les bouquinistes dans quelques années au patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
Merci beaucoup Célestin Rougère.
Et vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer un des titres de l'actualité. Pour la première fois, l'équipe de France va rencontrer l'Angleterre en Coupe du Monde dans un match éliminatoire. On avait rencontré l'Angleterre en 82, c'était un match de poule. Là, c'est un match couperet. A tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro,
RTL Midi jusqu'à 13h.
En ce moment.
Céline Landreau, Pascal Pro,
RTL Midi.
France-Angleterre, ce sera donc l'affiche du quart de finale du Mondial très attendu samedi à 20h. Qui pour une place en demi? C'est déjà le match de ce RTL Midi entre vous. Bruno Constant, bonjour.
Bonjour.
Spécialiste du foot anglais que les auditeurs d'RTL connaissent bien. Et Philippe Sanfourge, bonjour. Ah, Philippe? Vous êtes là?
Bonjour
Philippe,
à tous.
Bonjour. Ah, en direct du Qatar, hein, d'où ce petit décalage où vous suivez évidemment le parcours des Bleus pour RTL. D'abord, on vous pose la question à tous les deux. Qui est favori samedi, Bruno?
Pour moi, c'est du 50-50.
Ça, c'est une réponse de Normand, ça.
Ouais, je sais, mais côté anglais, on va dire qu'on est favori. Mais
la Normandie, je suis à la fois anglaise et française, donc ça tombe bien.
Exactement. Mais non, mais si côté anglais, on va dire qu'on est favori parce qu'on a une belle équipe. Et de côté de l'équipe de France, on a une individualité qui fait très peur.
Philippe?
Écoutez, je pense qu'on va se régaler avec Bruno dans les émissions pendant 5 jours. On va tout décrypter. Est-ce que Kylian Mbappé va pouvoir passer sur le côté gauche face à un défenseur Kyle Walker qui lui avait fait le plus grand mal en Ligue des Champions? Est-ce que Declan Rice au milieu de terrain va sortir les ballons de la même manière avec Griezmann et Rabiot qui lisent les trajectoires? Sur le côté technico-tactique, on va se régaler et on va arriver à la conclusion que ce sont deux énormes équipes avec des individualités partout. Et qu'en fait, c'est effectivement du 50-50.
Non,
la vérité, c'est quoi,
Philippe?
Mais si,
arrêtez,
la vérité,
la France,
Pascal,
est ultra favorite. Enfin,
absolument pas, Pascal. Bon, enfin, la vérité, c'est quoi? C'est que samedi, quand les deux équipes sur le terrain, écoutez-moi une seconde. Quand les deux équipes vont se présenter sur le terrain, il y a une seule chose qui va déterminer qui est favori, c'est qui a le plus fin. C'est est-ce que c'est le champion du monde en titre qui veut pas lâcher son gâteau? Ou est-ce que c'est l'équipe d'Angleterre qui est exactement l'équipe de France en 2018? C'est-à-dire qu'ils ont fait demi-finale de la dernière Coupe du Monde. Ils ont la frustration d'avoir perdu l'Euro chez eux en finale, mais en même temps avec quelques garanties. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils sont à une encablure, à rien d'être au sommet, et ils sont nourris d'une volonté, d'une espèce de force intérieure pour aller chercher ce qui leur appartenait, ce qu'ils n'ont pas réussi à avoir. Qui aura le plus fin samedi? C'est ça qui va déterminer le favori.
Moi, le favori, vous savez, c'est souvent les paris sportifs qui le donnent. Et la cote de la France sera évidemment moins élevée que la cote de l'Angleterre pour une victoire dans cette rencontre.
Mais parce que les bookmakers sont influencés, parce que la plupart des bookmakers sont anglais. Et souvent, on a mis l'Angleterre favori dans les grands tournois, alors qu'elle n'était même pas. Il y a un côté un peu de manière de se rassurer en Angleterre autour de cette équipe d'Angleterre. Mais moi, je peux vous dire que l'Angleterre...
Quand vous dites 50-50...
Non, parce que si on parle vraiment de jeu, d'un côté, on a vraiment un collectif où il y a peut-être un peu moins de stars, mais il y a des très très bons joueurs. Il y a Harry Kane, le capitaine, qui est un peu le capitaine flamme, qui est extrêmement important dans ce collectif. Il y a le Phil Foden, la petite pépite de Manchester City. Il y a Jude Bellingham, qui est la nouvelle star anglaise de milieu de terrain. Donc il y a plus de joueurs, il y a plus d'équilibre dans cette équipe anglaise. Mais quand on voit l'équipe de France, et on l'a vu en Angleterre, ce qu'a fait Kylian Mbappé, on a peur.
Ils ont peur les Anglais aujourd'hui quand ils voient les Bleus se dresser sur leur chemin.
Quand ils voient Mbappé prendre le ballon dans un match, il y a comme un frisson. On se dit qu'est-ce qui va se passer? Il va à une telle vitesse qu'il est capable de renverser un match à lui tout seul. Et ça fait peur en Angleterre.
Hier, dans un match entre guillemets moyen, il arrive à être exceptionnel, Philippe Sanfourche, Mbappé.
Il est effectivement animé par quelque chose d'extrêmement fort, une force intérieure, une flamme. Ce que décrit à l'instant Bruno, on le ressent ici à chaque match. C'est-à-dire que les supporters, qu'ils soient de l'équipe de France ou adverse, ou les spectateurs neutres, à chaque fois que Kylian Mbappé touche le ballon, le temps s'arrête. Il se passe quelque chose dans le stade qui est électrique, qui est exceptionnel. Les gens ont peur, les gens ont envie, en fait, attendent qu'il se passe quelque chose, que l'électricité. C'est comme Lionel Messi dans un match de l'Argentine. Aujourd'hui, Kylian Mbappé s'est hissé au niveau de Lionel Messi par rapport à ce qu'il dégage, à la crainte qu'il anime, en fait. Enfin.
Philippe, les premières cotes viennent de tomber. Je les cherchais. L'Angleterre, une vainqueur à 3,20. La France, vainqueur à 2,40. Donc il y a quand même un avantage pour l'équipe de France, c'est pas 50-50.
L'excellent Nicolas Georgerot, qui est à mes côtés, est en train de m'expliquer que si les paris sportifs avaient toujours raison, tout le monde gagnerait, en fait.
Il est fort, ce Nicolas Georgerot.
Il est excellent. Vous le saluerez de notre part, bien évidemment.
C'est fait, il vous entend.
Mais non, ça veut dire que les favoris ne gagnent pas toujours. Mais la question c'était, est-ce que la France est favorite? Oui, la France est favorite.
La France déjà était tenante du titre, et comme tous les tenants du titre, elle était censée se bananer au premier tour lamentablement, donc elle revient quelque part de très loin. Après, effectivement, plus ce genre d'équipe touche au but, il reste 3 matchs. Et la force, là où je vous rejoins sur le côté favori, c'est qu'effectivement Didier Deschamps et son groupe, c'est-à-dire les Varane, les Griezmann, les Mbappé, ils ont connu la victoire. Ils savent ce que c'est un match à haute tension quand ils ont joué contre la Belgique et que la Belgique venait de sortir le Brésil. Ils ont connu ces moments-là. Les Anglais les ont touchés du doigt, mais n'ont pas encore réussi à valider la victoire contre un immense favori dans une grande compétition internationale avec cette génération du sélectionneur Southgate. Donc là, il y a un petit point d'avance pour les Français, mais encore une fois, si l'envie des Anglais dépasse tout ça, on est à 50-50.
Pour conclure, Bruno ?
Non, mais il y a cette chanson en Angleterre, Three Lions, qui rappelle tous les échecs de l'équipe d'Angleterre. Et on n'a toujours pas en Angleterre que l'Angleterre trébuche, se prenne les pieds dans le tapis. Mais je pense qu'on va être surpris. On va être surpris de ce qui va se passer samedi, parce qu'il y a un plan anti-Mbappé qui est en train de se préparer du côté de l'Angleterre.
Ce sera donc samedi à 20h et ce sera évidemment à vivre sur RTL. Merci beaucoup Philippe Sanfourche et merci Bruno Constant. On imagine que vous aurez l'occasion de reparler longuement deux sur cette antenne d'ici samedi.
Merci Philippe. Et puis désormais, à Doha, il y a comme à la Comédie Française un souffleur. Et aujourd'hui, c'était notre ami Nicolas Georgerot, que vous saluez bien sûr. Dans un instant, RTL Midi, votre vie. 85% des Français rêvent de vieillir à domicile. Mais rester chez soi, à quel prix? On en parle tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi, votre vie.
RTL Midi, votre vie, effectivement, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui... Vous avez ressorti Guy Mardel.
Mais je vous dis que ça vous ferait plaisir.
Mais cette chanson, parce que Guy Mardel, c'est N'avoue jamais, jamais, jamais. Mais celle-là, franchement, je ne la connaissais pas.
C'est vrai, j'arrive à vous surprendre même sur ces années-là.
Guy Mardel, qui est toujours de ce monde.
Et on lui souhaite de le rester le plus longtemps possible.
Bien évidemment.
Bien chez soi, oui, pour vieillir aussi. Alors que d'après l'IFOP, 85% des Français veulent vieillir chez eux. On se pose dans RTL Midi aujourd'hui la question, du coup, vieillir chez soi, oui, mais à quel prix? Bonjour Ludovic Erschlikowitz.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur du site retraite.com et vous avez réalisé avec Silver Alliance ce baromètre « Bien vieillir à domicile ». D'abord, est-ce que c'est accessible de vieillir chez soi? Est-ce que ça coûte cher? On dit que pour un EHPAD, il faut compter 2 000 euros en moyenne en France.
C'est à peu près près ça. C'est une étude qui est sortie de à peu près 2000 euros en 2019. Nous, on est un peu moins de 2000 euros. Enfin, on est à 1164 euros par mois. Alors, c'est une moyenne, une fois encore, à prendre sur 30 ans, sur trois profils qu'on a établis de 65 à 75 ans, 75, 85 ans, plus de 85 ans. Évidemment, ça coûte beaucoup moins cher quand on a 65 ans que quand on est en 85. Et ce coût de 1164
euros. D'autant qu'on n'est pas vieux à 65 ans.
Bah non, on est plutôt en bonne santé. Mais on va dire que on commence à décliner, on va dire à partir de 75, mais à 65, on est encore dans la fleur de l'âge. En tout cas, c'est une étude qu'on a voulu faire post-retraite. Voilà. Et en tout cas, c'est important de prendre en considération ce chiffre, parce que ça permet aussi de prévoir les 30 ans qui vont venir où on va être en décroissance physique, entre guillemets.
Et il recouvre quoi, ce chiffre que vous nous donnez? C'est quelles dépenses?
Alors, ça regroupe à peu près toutes les dépenses, enfin toutes les dépenses, 25 postes de dépenses. Alors, c'est hors loyer, hors dépenses contraintes, telles que EDF, le loyer, la nourriture au quotidien, mais ça reprend la mutuelle, les transports. Alors, à 65, 75 ans, on voyage encore beaucoup, mais après, ça va être la garde de jour, la garde de nuit, tout ce qui va être vidéo-assistance, plateau-repas, domicile, mais aussi tout ce qui va être club-association et autres, parce que bien vieillir, c'est bien vieillir physiquement, c'est aussi bien vieillir dans sa tête, et donc c'est très important de garder aussi un réseau social, à la fois pour les gens qui viennent chez vous, et puis avoir des clubs-associations, sport et autres.
Qu'est-ce qu'il faut prévoir pour bien vieillir chez soi ?
Bah, il faut prévoir surtout déjà d'emménager son logement. Alors, on va dire il y a plusieurs périodes. De 65 à 75 ans, c'est l'âge où on va commencer à... on profite de sa retraite à fond. Et c'est l'âge idéal où ça serait pas mal de refaire sa salle de bain, type douche à italienne, parce que beaucoup de gens de 65, 75 ans, en tout cas de cette génération, ont des baignoires. Et clairement, les baignoires, c'est le premier élément d'accidentologie. Donc, prévoir... dès qu'on est à 75, 85, quasiment. Aujourd'hui, sortir de son bain, rentrer dans son bain, qu'on commence à avoir 75, 80 ans. Donc c'est peut-être un âge où on va prévoir pour les 30 ans à venir comment bien vieillir à domicile. Et puis après, ça va être en fonction de son niveau de santé, tout ce qui va être garde de jour, garde de nuit, repas à domicile, éventuellement complément alimentaire, pour tout ce qui va être diabète ou autre. Donc il y a beaucoup de postes et de services qu'on a pu étudier. Il y a peut-être trois constats importants par rapport à l'année dernière, c'est qu'on a de fortes hausses sur certains postes. Alors clairement, tout ce qui va être lié à tout ce qui va être lié à tout ce qui est déménagement, poste à domicile, mais qui est lié aussi à l'augmentation du prix de l'essence. Clairement, quand une personne vient à domicile pour vous faire des soins, elle subit de plein fouet l'augmentation de l'essence, mais aussi parfois de biens et services. Alors ça, c'est post-Covid, mais la personne qui vient chez vous aujourd'hui, faut qu'elle soit tout ce qui est masque, gel hydroalcoolique, et qui est malgré tout post-Covid continue à être là. Donc là, on a des hausses, et puis la hausse des matières premières qui est liée aussi à post-Covid, donc tout ce qui va être matériel médical, poste, tels que les cannes, les fauteuils et autres. Donc on a des fortes hausses sur ces éléments et sur la mutuelle, donc ça c'est des fortes hausses. Et puis inversement, on a quelques postes qui n'ont pas augmenté. Je pense notamment à l'aménagement de la salle de bain, on en parlait tout à l'heure, qui est lié un peu à une loi qui a été arrêtée. Avant, on avait Action Logement qui finançait à 5000 euros une salle de bain. Les personnes qui faisaient les salles de bain, maintenant qu'il n'y a plus Action Logement, ils ont revu un peu leur élément à la baisse. Avant, ils vendaient une salle de bain 4 990 euros. Aujourd'hui, ils ont revu un peu à la baisse. Donc, on a un poste de charge, par exemple, pour préparer la salle de bain qui a baissé. Tout ce qui va être également appareil auditif, qui, avec le 100% santé, les boîtes qui vendent des appareils auditifs ont explosé. Certains ont fait plus de 100% sur leur chiffre d'affaires. Ils n'ont pas répercuté les hausses des matières premières sur les seniors. Donc ça, c'est des éléments assez importants qui font qu'il y a une hausse de 6,83% pour tout.
À peu près, un peu plus que l'inflation, mais on est à peu près dans cette zone-là.
Voilà. Et le troisième constat, le premier étant la hausse, le deuxième étant certaines baisses, le troisième constat, c'est qu'on a quand même l'État qui a joué son rôle, puisqu'on a eu, malgré tout, le 100% santé qui permet quand même à tout le monde aujourd'hui de pouvoir être pris en charge, à la fois sur les appareils auditifs, tout ce qui va être optique, et puis les différentes hausses qu'on a pu avoir cette année. Alors, on pense à l'augmentation des retraites, on pense à l'augmentation de l'ASPA. Il y a pas mal de hausses comme
ça. Si on voulait synthétiser, il faut quand même avoir un revenu minimum de 2000 euros par mois pour bien vieillir chez soi.
En tout cas, c'est à prévoir.
Voilà.
En sachant qu'il vaut mieux être propriétaire que locataire.
Oui, ça, je me doute.
Voilà, parce que propriétaire, on s'en sort. Locataire, c'est compliqué.
Merci beaucoup, Ludovic Herschelkowitz. Je rappelle que vous êtes le fondateur du site retraite.com, retraite au pluriel consacré, justement.
Alors non, c'est retraite au singulier.
C'est au singulier.
C'est pas grave.
Autant pour moi, j'aurais mieux fait de rien préciser. Retraite.com, merci beaucoup.
Merci, bonne journée.
Et c'était RTL Midi, votre vie. L'info revient dans quelques instants avec le journal de 12h30.
RTL Midi. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous et rebonjour même si à tous et si vous nous rejoignez et merci de rester avec nous si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi. Figurez-vous qu'il est 12h31.
RTL Midi.
Le 12h30.
Céline Landreau et Pascal Pro.
Et donc à 12h30 ou 12h31, c'est votre grande édition de la mi-journée, Céline Landreau.
Les éoliennes arrivent à l'Assemblée nationale, début de l'examen du texte sur l'accélération des énergies renouvelables, alors que le risque de coupure est agité et que l'on demande aux Français de réduire leur consommation d'énergie. Mais d'où vient justement cette crise énergétique? Est-ce vraiment une conséquence de la guerre en Ukraine? On en parle après le journal. Dans cette édition, également l'hôpital de Versailles, victime d'une cyberattaque. Nicolas Sarkozy, de retour face aux juges. Et puis, avant d'affronter l'Angleterre samedi en quart de finale du Mondial, les Bleus au repos aujourd'hui et en famille au Qatar. Juste avant 13h, LVT Midi, votre rendez-vous culture et aujourd'hui comme toute la journée sur RTL. Hommage à Johnny Hallyday 5 ans après le décès de la plus grande star de la chanson française. La question du jour sur notre site rtl.fr à propos justement de cette crise énergétique. Faites-vous plus attention à la température dans votre logement.
On en parlera à partir de 13h bien sûr de tous ces sujets dans Les Auditeurs ont la parole. 32-10, je le rappelle, pour dialoguer jusqu'à 14h30.
Première neige en pleine, on l'a dit aujourd'hui. La météo complète, ce sera à la fin du journal, mais déjà un indice avec vous, Peggy, sur ce qui nous attend cet après-midi.
Aujourd'hui, alors, il reste quelques flocons, c'est vrai, sur le Grand Est cet après-midi. Sinon, sur le reste, ce sera gris et beau au sud.
Merci, Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi,
Céline Landreau et Pascal Pro.
L'hôpital de Versailles, à son tour, cible d'une cyberattaque. Depuis samedi soir, le personnel ne peut plus utiliser ordinateur et matériel informatique. Les malades, sauf urgence vitale, ne sont plus accueillis mais redirigés vers d'autres centres, Arthur Pereira. Et les soignants, eux, s'adaptent comme ils peuvent.
Oui, à l'accueil, papier, crayon remplace le questionnaire informatique. À travers les vitres de l'hôpital, on voit des écrans d'ordinateur complètement noirs. À la maternité, par exemple, on évalue le degré d'urgence avant la prise en charge des patients, explique le docteur Rénal.
Une dame qui vient pour accoucher, on la prend en charge et on s'est organisé pour pouvoir la prendre en charge dans de bonnes conditions. Une patiente qui serait éventuellement en début de travail ou qui devrait avoir un déclenchement, la réflexion c'est est-ce qu'il est cohérent de lui proposer les soins sur le centre hospitalier de Versailles ou est-ce qu'il faut plutôt envisager de faire un transfert vers une autre maternité.
Et cette organisation millimétrée, c'est aussi le résultat d'une anticipation en amont des conseils reçus par leurs collègues de Corbeil-Essonne, le centre hospitalier qui avait été frappé lui aussi il y a quelques mois.
Le mois dernier ou il y a deux mois, on a tous reçu dans notre fiche de paye un flyer dans lequel étaient notées les bonnes pratiques à faire, à avoir en cas de cyberattaque.
Et depuis samedi soir, début de la cyberattaque, seuls 6 patients ont dû être transférés vers d'autres hôpitaux d'Île-de-France.
Arthur Pereira, Versailles pour RTL.
Nicolas Sarkozy de retour face à ses juges aujourd'hui.
L'ancien président jugé en appel pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes aussi appelée affaire Paul Bismuth. Nicolas Sarkozy qui est soupçonné, Anne Le Hénaff, d'avoir scellé ce qu'on appelle un pacte de corruption.
Oui, en 2014, les juges enquêtent sur le financement de sa campagne présidentielle de 2007 par de l'argent libyen. Ils placent l'ancien président sur écoute et découvrent l'existence d'une ligne téléphonique secrète au nom du fameux Paul Bismuth, sur laquelle il discute avec son avocat Thierry Herzog. Et ils discutent d'une chose, d'une procédure devant la Cour de cassation pour récupérer les agendas de Nicolas Sarkozy saisis par la justice. Ce qui se dessine, c'est que Nicolas Sarkozy aurait promis un coup de pouce à un haut magistrat, Gilbert Azibert, en échange d'informations confidentielles. Le magistrat n'a jamais eu son poste à Monaco. Nicolas Sarkozy n'a pas retrouvé ses agendas. Peu importe, ont estimé les juges en première instance. C'est un pacte de corruption. Nicolas Sarkozy a beau parler de fantasme, il est condamné à 3 ans de prison, dont un ferme. Une injustice profonde, selon l'ancien président de la République.
Et c'est pas le seul dossier judiciaire, Anne, qui menace l'ancien président.
Non, il a aussi fait appel dans l'affaire Big Malion. Nicolas Sarkozy, condamné à 1 an ferme, sera rejugé en novembre 2023. Et puis il y a un autre gros dossier qui assombrit son horizon judiciaire, le financement libyen de sa campagne par des fonds occultes. Un dossier tentaculaire qui vaut 4 mises en examen à Nicolas Sarkozy. Là aussi, il nie farouchement. La justice décidera en janvier de le renvoyer ou non devant un tribunal.
Anne Lehnaff au palais de justice de Paris. Donc pour RTL en Belgique, cette fois, début du procès des attentats de 2016. 9 accusés dans le box, dont Salah Abdeslam, face à des jurés tirés au sort, hein, contrairement au procès terroriste en France.
Après avoir célébré samedi le premier anniversaire de Reconquête, Éric Zemmour était sur RTL ce matin.
L'ancien candidat à la présidentielle qui n'a pas épargné le ministre de l'Éducation nationale. Réponse cinglante à Pap Ndiaye qui avait qualifié ce week-end Éric Zemmour de poison lent.
Moi, contrairement à M. Pap Ndiaye, je ne suis pas un intellectuel indigéniste qui dit que la France est raciste parce qu'elle est simplement assimilationniste. Moi, comme M. Pap Ndiaye, la France m'a tout donné. J'ai pu faire des études passionnantes, j'ai pu avoir des diplômes comme M. Pap Ndiaye, j'ai pu élever mes enfants très correctement comme M. Pap Ndiaye, qui les met dans une école privée et qui fait après la leçon à tout le monde. Seulement moi, je fais l'éloge de la France. Contrairement à M. Pap Ndiaye qui passe son temps dans toute son œuvre à cracher sur elle alors qu'elle lui a tout donné.
Éric Zemmour ce matin avec Amandine Bégaud sur RTL.
Alors que l'on vous parle beaucoup depuis plusieurs jours des risques de coupure de courant cet hiver, les députés, eux, vont débattre à partir de cet après-midi du projet de loi sur l'accélération des énergies renouvelables.
Car c'est peut-être une partie de la solution, alors pas pour cet hiver, mais pour les prochains. Bonjour Virginie Garin.
Bonjour.
Tout l'enjeu, Virginie, c'est de pouvoir monter les projets, notamment les projets éoliens, beaucoup plus vite.
Oui, parce qu'il faut 7 ans, c'est-à-dire 2 fois plus de temps qu'ailleurs en Europe pour construire un parc d'éoliennes et la France est en retard. Aujourd'hui, les énergies renouvelables, donc l'éolien mais aussi le solaire, le bois et les barrages représentent 20% de notre électricité. Il faudrait passer à 40% en 8 ans pour respecter nos engagements climatiques. Alors pourquoi c'est si long ? Eh bien parce qu'il y a pratiquement tout le temps, dès qu'un projet est lancé, un recours juridique qui fait perdre des années. Or ces recours, ils sont rejetés dans plus de 90% des cas. Donc cette loi, elle permettra de commencer à construire des éoliennes sans attendre la fin des recours et dans les rares cas où un projet serait refusé par la justice, les éoliennes seront démontées. La loi prévoit aussi que dans chaque région, des zones géographiques soient délimitées par les préfets où des procédures seront accélérées. La France a besoin de ces énergies pour éviter les coupures. Alors déjà, hein, la preuve, maintenant, les jours de grand vent, les éoliennes fournissent jusqu'à 30% de notre électricité.
Virginie Garin, et à propos des risques de coupures, justement, comment expliquer une telle situation sur le front de l'énergie, la guerre en Ukraine explique-t-elle tout ? On y revient après le journal. La ville de Strasbourg, elle annonce qu'elle va attaquer l'État en justice pour sa défaillance à mettre à l'abri les personnes à la rue et notamment les migrants. Annonce ce matin de la maire écologiste Jeanne Barseguian.
RTL Midi. Est-ce vraiment une inflexion du pouvoir en Iran ? Après 3 mois de manifestation, le régime semble lâcher du lest.
Oui, après avoir évoqué une possible révision de la loi sur le port obligatoire du voile, le procureur général a annoncé l'abolition de la police des mœurs, celle qui fait régner la terreur depuis plus de 15 ans. Des annonces, Julien Fautrat, dont on ignore encore quelle sera la portée réelle.
Absolument, ni même si ces annonces seront respectées. Le pouvoir continue de surveiller les comportements des citoyens dans la société. Précisent d'ailleurs les autorités, une dizaine de manifestants viennent d'être condamnés à mort par pendaison. 4 personnes exécutées encore hier, un voile mal porté, un cheveu apparent, resteront passibles de 72 coups de fouet. Et dans les journaux conservateurs ce matin, pas une ligne sur la fin de cette police des mœurs. Des propos ambigus donc. Est-ce une façon de créer du doute chez les manifestants, calmer leur colère ou le signe d'une division au sein du pouvoir ? Ces déclarations du procureur général, il faut que le gouvernement la valide, ce qui n'est pas fait. Les manifestants ne s'y trompent pas. Des commerçants baissent le rideau. Aujourd'hui, un peu partout dans le pays, rassemblement des étudiants très en pointe dans la contestation, c'est pour mercredi. 3 nouvelles journées de manifestation, les précédentes ont été réprimées dans le sang.
Julien Fautrat du service étranger d'RTL.
RTL.
Coupe du Monde 2022.
Le mondial donc, et que la semaine va sembler longue avant le quart de finale entre la France et l'Angleterre. Ce sera 20h.
Samedi soir exactement, rencontre à vivre sur RTL, les Bleus qui se sont imposés 3-1 hier contre la Pologne alors que les Anglais l'ont emporté 3-0 contre le Sénégal. Mais avant de préparer le choc entre ces deux équipes qui se connaissent bien, c'est repos aujourd'hui pour les hommes de Didier Deschamps. Une journée en famille et une parenthèse qui fait du bien surtout dans les têtes, hein, Nicolas Georgerot.
Oui, c'était le moment identifié par l'encadrement des Bleus, car il y a 6 jours et non 4 entre le 8e et le quart de finale, donc un peu plus de temps. Le milieu, Adrien Rabiot.
Ça fait du bien, ça va faire du bien à tout le monde et même pour le staff qui a aussi les familles qui sont venues. Ça va pouvoir faire une petite parenthèse dans cette Coupe du Monde et couper un petit peu.
Le plus fort de cette délégation est arrivé avant-hier via un vol affrété par la Fédération française, payé aux deux tiers par les joueurs. Grasse matinée aujourd'hui, petit déjeuner servi jusqu'à 11h, un mélange de colonies de vacances et de garderies, nous dit-on, ambiance légère dans la résidence des Bleus. Beaucoup sont papas, les Giroud, Griezmann, Coman, Loris, Varane, entre autres, profitent de leurs enfants. Didier Deschamps est avec sa femme Claude, présente depuis quelques jours à Doha. L'anniversaire de Randall Kolo Muani, 24 ans, sera fêté aujourd'hui. Et à partir de ce soir, les Bleus seront de nouveau entre eux, même si de temps en temps, depuis le début de la compétition, c'est vrai, sur des créneaux encadrés, certaines familles passent une tête dans l'hôtel durant une heure ou deux.
Merci Nicolas Georgerot au Qatar pour RTL. Le programme du jour, puisqu'il n'y a pas que les Bleus au Mondial, suite des huitièmes de finale à 16h, Japon-Croatie, à 20h, Brésil-Corée du Sud.
Si la clim tourne au Qatar, on est loin d'en avoir besoin chez nous, avec les premières neiges en pleine.
Un premier flocon dans le Nord, notamment cette saison, me direz-vous. C'est aussi la réaction de Joseph, agent technique au village de Sarcey-Rosières, entre Lille et Valenciennes.
Je travaille dans le village de Sarcey-Rosières, petit village bien sympathique, avec de la neige ce matin. Du temps gris, manque un petit peu de soleil, mais le soleil est toujours dans nos cœurs, c'est le principal.
Ça fait bizarre là de voir un peu de blanc ce matin là.
C'est la saison, c'est de la petite neige fondue, ça tient dans les champs, c'est blanc, mais c'est le début de l'hiver. Ça tient pas au sol, non, rassurez-vous, tout va bien. Bon, il nous faut de la neige aussi pour la végétation, l'environnement, ça nous fait du bien.
Propos recueillis par Franck Hanson. Pour RTL, on vous retrouve maintenant pour la météo, Peggy Broche. Bon, il faut s'attendre à... Pourquoi ça vous fait rire?
Parce que vous m'avez regardé comme... vous m'avez grondé, en fait.
Mais silencieusement, vous avez... Mais vous êtes tué immédiatement.
Vous avez compris pourquoi?
Mais oui, parce que je... Alors, nous parlions avec Martial You des retraites. Voilà, c'est pour ça. Nous évoquions les retraites privées publiques.
Et si ça vous fait rien, dans notre conducteur qu'on essaie de suivre à peu près correctement... C'est l'heure de la météo.
Vous avez parfaitement
et ça s'enchaînait très bien avec ce son de neige en pleine dans le nord de la France.
Parfaitement d'accord. Et
on se tournait vers Peggy pour savoir quel serait le temps.
Et je me range à vos arguments. Allez-y, Peggy.
Merci beaucoup. Donc, c'est vrai, on a eu quelques flocons cette nuit sur la Picardie des Ardennes. L'Île-de-France, ça n'a pas tenu, évidemment. Et tout ça se déplace vers le Grand Est et surtout vers les premières hauteurs des Ardennes. On peut avoir quelques flocons encore cet après-midi sur les Vosges, des 600 mètres aussi. Mais ailleurs, on va retrouver sur le reste de la moitié nord un temps sec, mais bien couvert. Peut-être quelques gouttes sur le Cotentin, le Pas-de-Calais. En revanche, en Bretagne, retour des éclaircies. Sur toute la moitié sud, là, c'est du soleil, changement d'ambiance complètement. Un beau soleil, peut-être quelques grisailles persistantes vers le Lyonnais, vers le golfe du Lion. Et attention au risque d'avalanche qui est très fort sur les Alpes du Sud. Et en Corse, eh bien, on retrouvera un ciel un peu moins nuageux que ce matin avec encore quelques gouttes. Tout ça sous des températures froides. On est souvent 3 à 4 degrés sous les normales au nord. 3 à Reims, 4 à Paris et Orléans, 6 à Strasbourg, 7 à Nantes et Clermont-Ferrand, 9 à Agen, 10 à Toulouse, 12 à Montpellier. On est sur des températures de saison dans le sud. 15 à Nice et même jusqu'à 19 à Ajaccio.
Merci Pierre.
Martial Liu est donc là, non pas pour parler des retraites, mais pour répondre à une question toute simple d'ailleurs. Est-ce que la crise énergétique est liée à la crise en Ukraine, à la guerre en Ukraine? Elle a parfois bon dos, la guerre en Ukraine. Ben, vous allez nous éclairer, si j'ose dire.
Ça sera lumineux.
Pascal Praud, humoriste sur RTL.
Jusqu'à 13h. RTL Midi. RTL Midi. Pascal Praud et Céline Landreau.
Les Français appelés à scruter EcoWatt, ce site et cette application qui vous alerte sur les risques de coupure de courant cet hiver, crise énergétique, crise électrique. Mais au fond, d'où vient le problème, Martial You? Bonjour.
Bonjour.
On parle depuis des mois avec cette crise des conséquences de la guerre en Ukraine. Mais est-ce qu'il y a un lien si direct que ça entre le conflit et le fait qu'on nous demande aujourd'hui de faire des économies d'électricité?
Non, le principal problème, c'est la disponibilité du parc nucléaire, puisque la moitié des réacteurs sont à l'arrêt en ce moment. Vous en avez 30 sur 56. Alors, quand on dépend à 70% du nucléaire pour notre production d'électricité, évidemment, c'est un problème. Dans les prochaines semaines, EDF nous dit que le chiffre va remonter. 44 sur 56. Ça veut dire qu'on ne tournera toujours pas à plein régime et à pleine capacité cet hiver. Et puis surtout, chaque contrariété, en fait, occasionne de nouveaux retards. Par exemple, en octobre, vous avez eu une grève dans les raffineries, solidarité des salariés des centrales qui ont arrêté de travailler. Donc, de nouveau un retard. Les chantiers de maintenance ont été stoppés pendant quelques temps. Et c'est encore du retard à la clé. Puis, il y a un autre problème qu'on oublie un peu parce que là on est en plein hiver et qu'il fait froid, mais cet été il a fait très chaud, c'était la sécheresse. Mmh. Barrage hydroélectrique, la capacité, c'est notre deuxième source de production d'électricité dans le pays. Hein. La sécheresse de cet été, elle a pénalisé le rendement des barrages et ça, ça risque de continuer aussi avec le réchauffement climatique.
Mais le fait que la moitié des réacteurs ne fonctionnent pas, c'est lié à quoi ? Qui est responsable ?
C'est un problème de maintenance, évidemment, un problème de politique générale qui a été décidé pendant 30 ans à peu près. On a délaissé l'entretien des vieilles centrales parce qu'elles avaient vocation à fermer. C'était quand même l'idée qui était en cours avant la crise sanitaire. Donc en 2019, on fermait encore les centrales. L'ancien patron d'EDF, d'ailleurs, Jean-Bernard Lévy, l'avait dit, même si ça n'avait pas du tout plu à l'Élysée. Pendant des années, lui, on lui a demandé d'embaucher des gens qui étaient capables de fermer des centrales et pas d'embaucher des gens qui étaient capables de les faire tourner plus longtemps, voire d'en construire. Donc évidemment qu'aujourd'hui, on se retrouve à un moment où on se dit le nucléaire est la solution et on n'a pas forcément le parc adéquat. Et puis n'oublions pas que l'EPR devait prendre le relais.
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire.
L'EPR de Flamanville.
Oui, mais il y a combien ? Ça devait coûter 3 milliards, ça en coûte 15 ?
Ça en coûte pratiquement 20, selon 20, la Cour des comptes.
Et ça devait être terminé je ne sais quand, et ça sera terminé ça on 11, ne sait pas quand.
Ça a 11 ans de retard, ça devait démarrer en 2012.
Et ça, c'était sous Nicolas Sarkozy.
Oh oui, enfin, ce genre de projet, il est entériné, mais c'est en général décidé sur de longues années. C'est pas un responsable, on va dire, mais c'est vrai que ça aurait dû démarrer en 2012 et que ça démarrera peut-être. Parce que EPR, c'est encore un peu de retard jusqu'à maintenant. Hein. Peut-être fin 2023.
À vous entendre, Martial, on a l'impression que la guerre en Ukraine est en fait complètement étrangère à ce qu'on vit.
Alors, pas complètement, mais vous voyez bien que notre problème à nous, alors qu'on sait produire de l'électricité nucléaire, c'est de faire tourner nos centrales, nos capacités de production. Maintenant, c'est vrai qu'on est aussi dans un système européen de distribution de l'électricité, c'est un système solidaire. À 19h, lors du pic de consommation en France, la France importe la quasi-totalité de son électricité. Celle que nous consommons, elle vient d'Allemagne, des pays du Benelux, de Grande-Bretagne, d'Espagne. Regardez, vous avez l'air surpris.
La quasi-totalité, oui, j'en suis très surpris.
Oui. Mais... quasiment 100% de l'électricité qu'on consomme, quand on en a le plus besoin dans la journée, il nous vient de l'étranger. On en vend un peu en Italie, parce que c'est rentable à ce moment-là. Donc, mais la plupart est achetée à l'extérieur. Donc, l'Europe, comme c'est le premier client de la Russie en termes de pétrole, par exemple, et que précisément les Allemands et les autres font tourner leurs centrales avec du charbon ou avec du pétrole, évidemment, ce qui se passe aujourd'hui avec la Russie et l'Ukraine a des incidences chez nous aussi.
Une solution, allumer le feu dans la cheminée, et on va en parler avec Johnny Hallyday dans une seconde, puisque c'est les 5 ans.
C'est osé.
Écoutez, c'est la seule solution, ça c'est une énergie simple, le feu dans la cheminée. À tout de suite avec Stephen Bellery.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Praud, Céline Landreau. RTL. Laissez-vous tenter midi.
On m'a trop donné, bien avant l'envie. Moi j'ai oublié les rêves et les merci. Oui, tout ce
jour. Il y a beaucoup de sportifs, Steven, qui, dans le car qui les emmène au stade, écoutent cette chanson pour avoir du punch.
Johnny.
Il y a 5 ans, donc jour pour jour, la plus grande star de la chanson française nous quittait. Johnny mourait d'un cancer à l'âge de 74 ans.
En plus de 60 ans de carrière, 51 albums, La France pleurait, Johnny Hallyday. Stephen Bellery, le Pito, ce matin, RTL rend hommage au chanteur. Et vous avez rencontré notamment sa veuve, Laetitia Hallyday.
Oui, qui apprend à vivre avec son deuil. Laetitia s'autorise enfin à écouter la musique de celui qui a partagé sa vie pendant près de 20 ans, sans pleurer. Aujourd'hui, 5 décembre, elle est comme chaque année désormais à Saint-Barth, où repose Johnny. 300 fans environ ont fait le voyage. Un moment que Laetitia Hallyday souhaite vivre à leur côté.
Je manquerai pour rien au monde cette date et ce recueillement avec eux. Je suis heureuse de retrouver les fans qui, chaque année, partent en pèlerinage à Saint-Barth pour se recueillir, pour être là le 5 décembre, pour célébrer son départ comme on a célébré sa vie, pouvoir écouter la musique de Johnny avec eux, de pouvoir communier avec eux, allumer des bougies. On boit le rhum que Johnny préférait, un rhum que j'amène avec moi au cimetière et que j'offre à tous ces fans qui sont venus pour lui. C'est vraiment des moments presque solennel et c'est Johnny qui a choisi ce lieu et il y a beaucoup de lumière, beaucoup de paix, il y a beaucoup d'espérance aussi dans ce lieu. Qu'on soit croyant ou pas croyant, on vit ce moment tous ensemble, connectés, on pleure, on rit, c'est la plus belle façon de lui dire je t'aime.
Ça vous étonne que des fans fassent le voyage comme ça, économisent pendant des mois pour pouvoir vivre ce moment ?
C'est un gros sacrifice, fils. Et Johnny a laissé tellement de fans orphelins qui ont encore besoin de lui, qui ont encore besoin de se nourrir de lui. Les fans qui se déplacent jusqu'à Saint-Barth, ils trouvent beaucoup de paix et comprennent aussi pourquoi Johnny a choisi ce lieu.
Ouais. Est-ce que vous savez, Laetitia, s'il reste ou pas des inédits qui pourraient être cachés dans des tiroirs?
Oui, il y en a. Ça viendra quand le temps sera venu.
Je te promets des jours troublés comme tes fêtes.
Johnny Hallyday et ses fans, une relation incroyable au centre du podcast Inédit Focus, hein, préparé par Anthony Martin et à écouter dès à présent.
Toute la journée, Steven, des amis, complices de Johnny témoignent à votre micro.
Oui, comme Eddie Mitchell, l'ami de toujours.
J'en veux d'être parti et d'avoir fait l'imbécile pendant toute sa vie, quoi. Bah, parce que Johnny était un vrai battant, mais en même temps qui ne prenait pas soin de lui vraiment pas d'ailleurs, qui a vraiment brûlé toute sa vie, c'est le terme. C'était une force de la nature, qui a même réussi à traverser, je veux dire, plein de péripéties, plein d'épisodes dans sa vie, plutôt dangereux d'ailleurs. Il a fini par y rester, voilà, c'est ça le drame.
Et vous lui en voulez d'avoir brûlé sa vie?
Oui, je lui en veux de pas être là, quoi.
Vous lui disiez quoi, Johnny, dans la vie? De faire attention à lui, vraiment?
Ah bah oui, très très souvent, mais c'est normal, je veux dire, parce qu'on était très très liés, et je lui disais, mais enfin, arrête de boire comme ça, va te coucher, arrête de faire le con, quoi, arrête, voilà. Et bon, mais c'était gentil.
On veut des légendes.
Leur fameux duo en 2006, on veut des légendes.
5 ans après sa mort, le business autour de Johnny, en tout cas, ne faiblit pas, hein, Steven.
Pourquoi ne reviendrais-tu pas?
Pas une année sans une sortie. Certaines ont cartonné comme les albums symphoniques imaginés par l'arrangeur Yvan Cassar. Une tournée avec grand orchestre et chœur démarre d'ailleurs le 16 mars, autre événement d'envergure. Johnny Hallyday, l'exposition, 20 décembre à Bruxelles, l'an prochain, 2024, un janvier 2024 à Paris. Netflix a consacré un documentaire à Johnny qui était plutôt pas mal d'ailleurs. M6 oui. Dégaine le sien jeudi soir à 21h15, construit grâce à des images personnelles et inédites de Laetitia. Un long métrage serait en préparation, on n'en sait pas grand chose. On sait que le réalisateur serait Jalil Lesper, qui est le compagnon de Laetitia. En librairie aussi, c'est foisonnant. Calendrier, quiz, jeu, agenda, BD, beau livre. J'ai compté 18 références rien que ces 3 derniers mois. J'en conseille un seul, Tout Johnny, paru chez Flammarion. 450 pages, plutôt bien penser autour de sa discographie. Côté reprise, ça y va aussi. Hein. Yarol Poupeau, son dernier directeur musical et guitariste, vient de sortir Fils de Personne, album de 12 reprises.
Faut pas oublier qu'à la base, c'était très dangereux, Johnny Hallyday. C'était un voyou, c'était un rebelle, c'était interdit. Enfin, les premiers concerts de Johnny en France dans les années 60, c'était les préfets interdisaient ça. C'est, oh là 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 là, la jeunesse dépravée. Enfin voilà. Donc j'ai voulu un petit peu remettre du danger un petit peu dans l'image de. Et lui, il a toujours été comme ça. Sauf qu'évidemment, sa carrière est tellement longue et tellement diverse que, bon, il y a plein de façons.
Nous n'avons plus rien à nous dire.
De nouveaux coffrets viennent de sortir cet automne, Steven.
Oui, un nouveau best-of de 20 titres intitulé Légende est sorti. Une série inédite de vinyle Légende a aussi été imaginée par thématique. Johnny le pionnier, irrésistible, performeur, rebelle, le plus beau, le plus collector et complètement dingo. Hallyday Bercy, pour revivre ses plus beaux shows dans la salle parisienne, ça pèse 12 kilos. Il y a 20 vinyles dedans, 10 CD. Il est numéroté, gravé pour ultra fans uniquement parce que ça coûte 1009 euros. D'ailleurs, petite question, devinez combien de fois Johnny a chanté à Bercy ? C'est le recordman. Allez, un chiffre.
À Bercy, 30 fois ?
101 fois avec les vieilles canailles, en comptant les vieilles canailles.
Et la folie de Johnny, c'est pas prêt de s'arrêter. Hein.
Universal fait un travail remarquable, on le sait. Ils puisent dans leurs archives, c'est comme ça qu'ils retrouvent des inédits, ils ressortent de nouveaux
coffrets.
Il y a
des inédits encore ?
Il y en a encore, Laetitia vient de nous le confirmer. Même peut-être des inédits des époques récentes. Johnny, ça ne finira jamais.
Ça ne finira jamais.
Vous allez pouvoir lui rendre hommage, bien sûr, durant... Les auditeurs ont la parole pendant 1h30. Merci, Steven. C'était très émouvant d'écouter Laetitia. Également, elle était présente dans le journal d'inattendu avec Ophélie
Meunier.
C'est
samedi dernier qu'on pouvait réécouter en replay.
Il est 13h, nous sommes un point en retard. A tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Praud, Céline Landreau. RTL.